Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 $ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
Propulsé par énergie.
Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjuste. Cette semaine, je suis accompagné par Marc-André Chaloux pour tout l'épisode du podcast. On avait un invité qui, malheureusement, n'a pu se joindre à nous à la dernière minute. Alors, comme vous le voyez, Marc-André souriant, il est heureux de se joindre à moi pour parler football, bien sûr. La NFL, c'était la 15e semaine d'activité. Il ne reste plus que 3 semaines déjà, Marc-André, à la saison régulière. On va jaser de la situation des Alouettes. Encore une fois, c'est la zizanie du côté de l'organisation montréalaise de la Ligue canadienne de football. Et on va conclure le tout comme on le fait à l'habitude, en jasant fantasy football avec Marc-André. Marc-André, ça a été une semaine complètement folle. Je sais, je me répète, on dirait qu'on dit ça toutes les semaines du côté de la NFL. Mais là, on a assisté à des performances historiques. En commençant par les Colts d'Indianapolis. qui menaient 33-0 à la mi-temps contre les Vikings du Minnesota et qui se sont effondrés. Il s'agit du pire effondrement dans toute l'histoire de la NFL. Ils ont perdu une avance de 33 points pour perdre de 39-36 en prolongation. Dis-moi, quelle a été ta réaction là, quand tu as vu comment les choses, comment l'implosion des Colts se faisait là?
C'est tout simplement, Didier, incroyable cette affaire-là. Je veux dire... Puis j'ai trouvé que le livre de jeu, comment on a géré la deuxième demi de façon du côté des Colts, j'ai trouvé ça quand même un peu bizarre. J'ai trouvé qu'on passait énormément le ballon. J'ai trouvé Jeff Saturday, là. C'est un peu ça l'histoire. Je pense que Jeff Saturday, je pense qu'avec ce match-là, avec ce résultat-là, je pense qu'il vient de s'il pensait peut-être coacher l'année prochaine les Colts, mais avec ce match-là, je pense que ça vient dire que ça va prendre un coach au coach parce que mon Dieu, la façon qu'on a géré ça, on a continué à faire des passes, on n'avait aucun jeu au sol vraiment du côté des Colts, on continuait à passer le ballon. Michael Pittman, je pense, des choses comme des catchs, on essayait toujours le même petit jeu, le screen, la passe écran à Pittman. Bref, j'ai mal compris comment on a géré cette deuxième demi-là ou cette fin de match.
Parce qu'on l'a pas géré. On l'a pas géré, exact. La deuxième demi. C'est ça le problème. J'en parlais avec Bruno Hippel en ondes. Immédiatement, lors du troisième quart, on se demandait mais pourquoi les Colts passent ce ballon autant? Parce que imagine-toi, là, si on avait juste couru avec le ballon, d'abord avant toi à la mi-temps, on aurait dû décider qu'on allait mettre le ballon en jeu lorsqu'il reste juste 5 secondes au chronomètre. Et puis, c'est pas du tout ça qu'on a fait. On mettait le ballon en jeu alors qu'il restait 17, 18 secondes. On passait le ballon malgré le fait qu'on avait l'avance. Lorsque tu fais ça, tu ouvres la porte à l'équipe adverse pour qu'elle effectue un retour, comme on l'a vu. Puis moi, c'est les commentaires de Jeff Saturday là, qui m'ont laissé incrédule après la rencontre. Après la rencontre, il disait... Et on n'a pas fait assez de jeux en deuxième demi. Les joueurs n'ont pas fait assez de jeux en deuxième demi. C'est pour ça qu'on a perdu. Non, c'est pas ça du tout. Parce que les joueurs des Colts, Marc-André, même en première demi, ils n'en ont pas fait des jeux. C'est les Vikings qui leur ont donné le ballon, qui ont été victimes de revirements. C'est les Vikings qui leur ont permis de se bâtir en avance, un botté de dégagement bloqué, retourné pour un toucher, ainsi de suite, avec les revirements. Pourquoi les Colts ont perdu? C'est comme tu as dit, on a mal géré la rencontre. On n'a pas été en mesure de gérer le chronomètre d'abord et avant tout. Ça, c'est la raison principale pourquoi Indianapolis s'est incliné et a perdu cette avance-là. Écoute, ça a été une implosion vraiment historique. Alors moi je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas oublier que Jeff Saturday, il y a 2 semaines, les Colts ont accordé 33 points en deuxième demi contre les Cowboys de Dallas. Il ne peut pas être de retour à la barre de l'équipe. Et de l'autre côté, c'est peut-être l'équipe la plus chanceuse de la NFL.
J'ai vu passer un tweet, justement, je pense que c'était Bill Simmons qui disait Les gagnants de ce match-là, ben, c'est ESPN parce que Jeff Saturday va retourner pour ESPN la saison prochaine. Et ça se demandait
ben, est-ce qu'il
aussi.
Peut vraiment retourner comme analyste après l'avoir vu sur les lignes de côté être un désastre? Là, quand il va se mettre à remettre en question les décisions des entraîneurs, qui va le prendre au sérieux?
Ah, écoute, il y a des analystes qui reviennent à la télé et tu te demandes des fois, comment il s'appelait déjà Matt Millen à l'époque? J'ai toujours trouvé que c'était
Mais Matt Millen n'est pas revenu. Après qu'il ait fait un désastre comme DG des Lions, on l'a plus revu. On l'a plus revu tellement qu'il a été désastreux. Puis je trouve que c'est une bonne comparaison que tu fais avec Matt Millen, mais je trouve que on assiste un peu à la même chose là, avec Jeff Saturday, pour moi en tout cas. J'ai hâte de voir ça s'il va retourner comme analyste à la télévision.
Et ça se demandait aussi si le leg de Matt Ryan à la NFL, ça a été un grand carrière, Matt Ryan. Mais là, il a perdu une avance au Super Bowl, la plus importante de l'histoire du Super Bowl. Il a perdu la plus importante avance en saison régulière. C'est un grand quart. Il était vraiment bon avec les Falcons. Mais là, écoute, on le voyait sur les lignes de côté. Il a vraiment l'air d'un gars au bout du rouleau, je trouve. Je pense que c'est la dernière année. C'est le dernier tour de
coupe.
Eh oui, vraiment. Vraiment.
C'est ce que j'arrête pas de dire à chaque fois qu'on diffuse un match des Colts. C'est pauvre Matt Ryan. Il me semble qu'il méritait mieux que ça. Il méritait de terminer sa carrière d'une meilleure façon. Tu sais, lui, c'est un bon gars. Il était très impliqué dans la communauté à Atlanta. Puis là, malheureusement, il se retrouve là dans une situation qui est impossible à Indianapolis. Et avec cette victoire, ben, les Vikings se sont assurés du premier rang de la section nord de l'Association nationale et par conséquent, d'une place en éliminatoire. Mais les Vikings sont vraiment chanceux. Mais écoute, il n'y a pas juste eu cette rencontre-là qui a été historique. La défaite des Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Raiders de Las Vegas.
C'était tout incroyable.
On assistait à du jamais vu deux fois. La remontée des Vikings contre les Colts et la façon dont les Patriots ont littéralement donné la victoire aux Raiders. Quand tu as vu ça se dérouler en temps réel, à quoi t'en pensais? Est-ce que tu croyais qu'est-ce que tu voyais? Moi, je n'en revenais pas. De cette latérale de Jacoby Myers. Il ne faut pas oublier, ça commençait avec la première latérale de Ramondre Stevenson. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas juste blâmer Myers.
Écoute, tu sais, la stupéfaction, puis on dirait qu'il y a un moment que tu fais comme, t'assimiles ce qui vient de se passer, j'ai pas de mots, c'est un peu encore ça. Écoute, moi, ma première pensée pour Jacoby Myers, qui est un excellent receveur de passe là, dans la NFL, c'est comme, mon Dieu, qu'il va se faire. J'aurais aimé être un petit oiseau pour voir le vestiaire des Patriots puis voir la face de Bill Belichick après le match pour savoir qu'est-ce qu'il lui a dit. Sûrement, il lui a jeté un regard de feu, probablement, sans rien dire. Puis, et non, écoute, c'était tout simplement incroyable. Tu sais, je suis le chroniqueur fantasy de ce podcast, puis moi, j'ai gagné mon match-up fantasy par un point à cause de la course de Ramondre Stevenson. Puis je me souviens, j'étais même dans la salle des nouvelles à RDS, puis je me suis dit, tout ce que je voulais savoir, c'est si Yahoo allait compter les verges avant qu'il fasse le latéral. J'ai dit, là, j'ai les verges, j'ai besoin de ces verges-là. Puis le temps, écoute, ça a été incroyable, Chandler Jones, Mac Jones là-dessus, hein? Chandler Jones l'a poussé tel une poche de patates. Puis écoute, ouais. C'est fascinant. Pour moi, c'est l'une des fins de match depuis longtemps. Là, c'est une des fins de match les plus stupéfiantes, les plus spectaculaires. Là. Écoute, on était sans mots
dans la salle. C'est la stupéfiante de l'histoire de la NFL, je crois, sincèrement. Là. Puis, il y a eu d'autres fins de match incroyables, mais ça, vrai, c'était tellement une crampe au cerveau de la part de Stevenson et de Myers d'y aller de latéral. Le pointage était égal. C'est pas comme si on tirait de l'arrière. Donc, quand tu fais des latérales, c'est un échappé. Alors, l'autre équipe peut recouvrir le ballon et le rendre jusque dans la zone début, comme Chandler Jones a dit. Puis, du côté des Patriots, souviens-toi, là, durant les belles années des Patriots sous Belichick, c'est une équipe qui ne commettait pas de bévues de la sorte. C'est une équipe qui était toujours bien préparée. On parlait toujours de football, de situation. On savait exactement qu'est-ce qu'on devait faire dans chaque situation. Et cette édition-là des Patriots, elle est vraiment pas à l'image de Bill Belichick. Moi, je me demande si Bill Belichick a tout simplement pas perdu sa touche magique.
Hey, j'étais convaincu qu'on allait mettre le genou au sol. C'est Bill Belichick. Tu mets le genou au sol, tu t'en vas en prolongation pour décider de l'issue du match. J'étais convaincu qu'on allait faire ça. Puis je peux même pas croire pourquoi qu'on n'a pas fait ça. Je veux dire, sûrement, j'imagine que les instincts ont pris. Ont pris le dessus sur du côté de Myers, surtout, et de Ramondre Stevenson, mais
ouais, non, mais c'est exactement ça qui est arrivé, Marc-André. Ouais. Parce que les deux joueurs, bon, premièrement, ils se sont tenus, il faut leur donner crédit, ils ne se sont pas défilés après la rencontre, ils ont répondu aux questions des journalistes dans le vestiaire, mais ce n'était pas la décision de Bill Belichick. Donc, comme tu dis, c'est eux qui ont décidé de faire ça, puis ça a été catastrophique, complètement. Parce que je vais m'en souvenir longtemps de la fin de cette rencontre-là.
Puis ça joue aussi sur les éliminatoires. Là. Les Patriots avaient besoin de ce match-là parce que les Raiders, c'est quand même une équipe. Bon, avant le match, qu'on se disait que c'était une victoire. Tu sais, il y avait besoin d'une victoire contre les Raiders. C'est une équipe battable pour eux. Puis là, écoute, ça vient tout resserrer le portrait dans l'association américaine. Ils sont rendus avec une fiche de 500 maintenant. Les Jets aussi. Bref, écoute, cette petite gaffe-là, ce petit 30 secondes-là dans la saison des Patriots, ça va pouvoir avoir peut-être une incidence vraiment énorme sur le reste de leur saison. Ça, c'est aussi quand même assez fascinant, je trouve.
Ouais, puis ils ont joué de ma chance parce que je suis pas convaincu que Keelan Cole avait inscrit un toucher. Moi, j'avais, de tous les angles qu'on nous a démontrés, j'avais l'impression que je crois que c'était son pied gauche touché à la surface blanche, qu'il était à l'extérieur des limites du terrain. Bref, j'étais surpris lorsqu'on est allé à la reprise vidéo et qu'on a confirmé que c'était bel et bien touché, bel et bien un touché. Mais bon, peu importe, écoute, les Patriots avec le cafouillage à la fin du quatrième quart ne méritaient pas de l'emporter.
Les arbitres en fin de semaine dernière, fort, hein? Dans plusieurs matchs, là, je suis pas arbitre à la NFL, j'ai jamais fait ce travail-là, mais je me dis que, tu sais, en 2022, on doit avoir des caméras, on doit pouvoir gérer ça autrement pour rendre la bonne décision, tu sais.
Ben, surtout, tu sais, la NFL, une ligue, tu sais, qui vaut je sais pas combien de milliards de dollars. Le fait qu'on n'a pas plus recours à la technologie, moi, à chaque fois que je vois les chaîneurs s'amener sur le terrain, j'en reviens pas. On est rendu en 2023, OK? La façon qu'on mesure, imagine-toi, là, tu sais, un premier essai, où si c'est capable de convertir le quatrième essai ou non, peut-être aller au Super Bowl, là, c'est deux gars qui s'en viennent avec leur chaîne. Ça n'a aucun bon sens en 2023 qu'on fasse toujours ça. Je ne peux pas me dire que la NFL n'a pas les moyens de mettre une puce dans le ballon, quelque chose. Ouais. Chaque fois, moi, ça me dépasse. Ou d'avoir plus de caméras, avoir des angles différents, comme sur le toucher de Keelan Cole. Ça je ne peux pas croire à ça. Mais écoute, on va parler d'une autre rencontre. Les Cowboys de Dallas se sont fait surprendre à Jacksonville par les Jaguars. Ça a été une victoire par la marque de 40-34 de Jacksonville. Tout au long de la semaine, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé, je vois des analystes. Il disait, attention, les Cowboys pourraient se faire surprendre par les Jaguars. Je me disais, écoute, les Jaguars peuvent leur offrir un match coriace. Je me disais, Dallas va gagner, ils ne vont pas se faire surprendre. Eh bien, non, on s'est fait surprendre. Dak Prescott, qui a été victime d'une interception en prolongation, retourné pour un toucher, il faut dire que ce n'est pas de sa faute. Noah Brown aurait dû réussir la réception. Mais écoute, je te donne une page blanche. Où est-ce que tu aimerais commencer en parlant de cette victoire, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ça a vraiment été toute une performance de carrière, Trevor Lawrence.
Depuis quelques semaines, je trouve qu'on a retrouvé un swag. Hein? Je ne sais pas c'est quoi en français. On a du swag du côté des Jaguars.
Peut-être.
La confiance, ouais. Puis écoute, Zay Jones a été tout simplement incroyable. Hein? Au niveau fantasy, pour le gars de fantasy, Zay Jones a gagné des semaines fantasy. Mais je veux dire, je trouve que Trevor Lawrence, on est en train de voir ce qu'on voyait en lui comme premier choix au total. Je trouve qu'il joue du bon football ces temps-ci. Et on parlait peut-être de réaction excessive tout à l'heure. Là, le sud de l'Américaine, là, il n'y a rien de joué encore, les Titans. Je ne les ai pas trouvés très fabuleux la semaine dernière. Puis,
écoute, les Jaguars, de suite pour le Tennessee.
Exact.
Maintenant.
Puis les Jaguars, là, je trouve que Doug Peterson est en train d'implanter vraiment une culture qu'on... Écoute, Urban Myers puis Doug Peterson, c'est le jour et la nuit. Hein? On voit vraiment que c'est une équipe de football. Trevor Lawrence joue avec confiance. On a vraiment des bons outils aussi du côté des Jaguars, Travis Etienne. Et on est allé chercher Calvin Ridley à la fin cette année aussi pour l'année prochaine.
Oh, pour l'année prochaine, oui.
Ouais. Donc, je pense que les Jaguars vraiment font les... Pour une des rares fois en plusieurs années ou dans mon existence, je trouve que les Jaguars font les bonnes choses, prennent leur temps. Puis écoute, pour les Cowboys, c'est un peu inquiétant hein, aussi pour, de leur côté. La défense,
c'est
depuis
surtout,
quelques matchs...
Voilà, la défense. C'est ce que j'allais dire.
Défense, vas-y. Ben, la défense depuis quelques matchs est quand même assez permissive. L'attaque ne fonctionne pas. Je comprends pas pourquoi qu'on s'entête. Je trouve que le meilleur joueur, même au niveau fantasy, souvent le fantasy, ça reflète aussi la réalité. Je trouve qu'on n'utilise pas assez Tony Pollard du côté des Cowboys. On fait encore. Je sais que Ezekiel Elliott, c'est le chouchou de Jerry Jones, mais je pense que pas Tony Pollard, il est dynamique. Avec lui, je trouve que les Cowboys ont vraiment une toute autre dimension à l'attaque. Et Dak Prescott a connu des performances moyennes. CeeDee Lamb a connu quelques matchs moyens, mais la défense aussi est plus permissive.
C'est la défense.
On accorde des verges.
Ben c'est ça, c'est vraiment la défense qui a coûté le match. Tu viens de dire, on accorde des verges. Marc-André, on a accordé 503 verges d'attaque aux Jaguars. 503 verges. Ça, tu peux pas être la meilleure défense de la NFL en accordant 500 verges en une rencontre, peu importe qui est l'adversaire. Et c'est pas juste ça, on a accordé 192 verges au sol à Jacksonville. On en avait accordé 207 au sol aux Packers, souviens-toi, il y a quelques semaines, au Lambeau Field. Et même la victoire contre les Colts d'Indianapolis, il faut se rappeler que les Cowboys se menaient que par 2 points là, au début du quatrième quart, puis en dessous de ça, ça a été l'implosion complète du côté des Colts. Puis la semaine dernière, ben, les Cowboys ont presque perdu contre les Texans de Houston. Alors, je leur avais donné le bénéfice du doute lorsqu'ils ont vaincu Houston, mais là, pour toutes les raisons que je viens de mentionner, la défense m'inquiète, puis ça fait en sorte que j'ai de la difficulté maintenant à croire que les Cowboys sont réellement des aspirants au Super Bowl, comme c'était le cas il y a un mois. On va devoir mieux jouer défensivement. Puis pour en revenir du côté des Jaguars, je regrette d'être descendu du bandwagon. J'étais sur le bandwagon des Jaguars au début de la saison. Je cache pas que je suis un grand fan de Trevor Lawrence depuis qu'il jouait à l'Université Clemson. Je suis descendu du bandwagon. Je vais voir si je peux embarquer dessus. Parce que lorsqu'on regarde le calendrier de Jacksonville, ils pourraient bien là, devancer les Titans du Tennessee au premier rang de la section. Premièrement, ils ont déjà vaincu les Titans plus tôt cette année. Leur dernier match de saison régulière est contre le Tennessee. Et les Jaguars ont un calendrier relativement plus facile que celui des Titans pour les 3 dernières semaines. Ça va être à surveiller, mais c'est une jeune équipe de Jacksonville. Alors, avec cette victoire-là contre les Cowboys, j'ai hâte de voir le genre de performance qu'ils vont offrir. On n'aura pas à attendre bien longtemps parce qu'ils vont jouer jeudi soir contre les Jets de New York. Alors ça va vraiment être un match. C'est vraiment un match que j'ai hâte de voir.
Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 $ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
Propulsé par énergie.
Justement,
j'étais tellement...
Oui, vas-y.
Non, je m'en allais ajouter simplement, excuse-moi, que j'étais vraiment un fan, moi aussi, de Trevor Lawrence à l'Université Clemson. Puis c'était fou l'année passée. Il était si bon à l'université, il était si mauvais à sa première saison. J'ai jamais compris. Puis on voit maintenant. Exactement. Et on voit avec.
Mario, c'était une farce, c'était une joke comme entraîneur dans la NFL.
Et on voit qu'avec un entraîneur qui est un ancien carrière, ben on voit toute la différence, puis ça commence à payer du côté des Jaguars.
Oui, en tout cas, j'ai bien hâte de voir la suite des choses du côté de Jacksonville dès jeudi soir. Mais leur rivaux de section, les Titans, comme on vient de dire, ont encaissé un 4e revers consécutif en perdant 17-14 contre les Chargers. Le match avait lieu à Los Angeles. C'était une performance courageuse à part de Ryan Tannehill, parce que je ne sais pas si tu as vu la blessure à une cheville qu'il a subie, je crois que c'était à la cheville droite. Moi, j'étais certain qu'il s'était fracturé la cheville. Il est allé dans la tente médicale. Enfin, il a même quitté en voiturette, allé dans le vestiaire. Là, c'est pas du soccer, là, ça. Là. Okay? C'est du football américain. Un joueur part en voiturette. Habituellement, il ne revient pas dans le match. Il est revenu. On lui a fait un plâtre, finalement, sur la cheville en ruban adhésif. Et tu vois, il boitait. Ça faisait mal, mais il continuait de se battre. C'est lui-même qui a inscrit le toucher qui a créé l'égalité 14-14. Le problème, c'est qu'il restait 48 secondes au tableau. Et Justin Herbert a été en mesure de compléter 2 superbes passes à Mike Williams. On est allé de beauté de précision victorieux pour les Jaguars de Jacksonville. Est-ce que c'est le début de la fin pour les Jaguars, je veux dire pour les Chargers de Los Angeles? Est-ce que c'est le début de la fin là, pour les Titans?
Pour les Titans, je sais pas, mais j'ai trouvé cette performance. J'ai trouvé qu'ils ont pas mal joué dans les circonstances, dans le sens que notre défense est une passoire contre la passe, puis on a vu que Justin Herbert n'a pas connu un grand match. Il a lancé quand même pour 300 verges, mais il n'a pas obtenu de toucher. Je trouvais
qu'on a limité les dégâts, ouais.
On a tenu notre bout, comme on dit en bon québécois, Puis, ce qu'on remarque du côté du Titan, c'est qu'on manque de talent à l'attaque. Je veux dire, Treylon Burks a manqué, une deuxième semaine de suite. Puis, on s'est rendu compte qu'on n'a pas de receveur de talent. Robert Woods est fini. À part Derrick Henry, je veux dire, on est à la recherche vraiment de receveurs dominants. Et ça manquait contre les Chargers. On a vraiment une attaque qui est inerte dans ce sens. Est-ce que c'est la fin des Titans? Je ne sais pas. Mais il va falloir que la défense joue comme elle a joué contre les Chargers cette semaine. Est-ce que je pense qu'ils sont en ce moment, une moins bonne équipe que les Jaguars depuis quelques matchs? Je pense que oui. Mais est-ce que c'est la fin des Titans? Je ne sais pas. Et je veux dire, l'entraîneur-chef, son nom m'échappe Mike Vrabel prépare quand même toujours adéquatement ses équipes. Je pense que c'est un excellent entraîneur-chef. Je pense que les Titans vont trouver des façons. Écoute, on va probablement remettre le ballon 25-30 fois à Derrick Henry d'ici la fin de la saison. Bref, est-ce que les Titans sont morts? Non. Mais je trouve vraiment qu'on manque vraiment quelque chose en attaque, spécialement dans le jeu aérien en ce moment.
Ils sont pas morts, mais ils sont pas forts, comme on dit là, présentement. Et pour les Chargers, avec cette victoire, écoute, ils sont pratiquement assurés d'une place en éliminatoire. Ils vont devoir s'effondrer complètement pour ne pas participer au match après-saison. Je critique beaucoup, et avec raison, l'entraîneur-chef des Chargers, Brandon Staley. Je dois lui donner crédit pour la façon dont il a géré la fin de la rencontre, parce que les Titans n'avaient plus de temps d'arrêt lorsqu'ils tentaient de créer l'égalité. Et Staley s'est mis à utiliser, lui, ses temps d'arrêt. Je me disais, il me semble qu'il aide les Titans en faisant ça. Moi, je n'aurais pas utilisé mes temps d'arrêt afin de faire en sorte que du côté des Titans en attaque, on aurait dû se presser jeu après jeu pour remettre le ballon en jeu ou pour l'envoyer au sol pour arrêter le chronomètre. La stratégie de Staley, c'était qu'il voulait conserver du temps. Je comprenais ça, mais je me disais, ben là, c'est comme s'il s'attend à ce que sa défense cède et elle accorde un toucher aux Titans du Tennessee. Mais c'est quoi? Ça a été la bonne stratégie. Parce qu'il restait 48 secondes. Oui, on n'avait plus de temps d'arrêt, mais au moins, il nous restait du temps, 48 secondes. Avec Justin Herbert, ce n'était pas une mission accomplie. Ce n'était pas une mission impossible, plutôt. Alors, félicitations à Brandon Staley. Il a gagné son pari, son carré à traverser le terrain. On a pu réussir le botté de précision victorieux. T'as pas l'air bon? T'as pas l'air sûr?
Je pensais jamais entendre les mots « bonne gestion du cadran et des temps d'arrêt » et Brandon Staley dans la même phrase.
Ouais, non, mais bon,
c'est Noël après tout, hein?
Non, mais écoute, il faut l'admettre. Écoute, je critique lorsqu'il bousille les matchs avec ses décisions de tenter de convertir des quatrièmes essais, lorsqu'il laisse des points, il refuse de se contenter de botter de précision. Mais sa stratégie a vraiment fonctionné. Ça permet à son équipe de l'emporter. Maintenant, les Lions de Détroit, eux, ils ont vaincu les Jets à New York par la marque de 20 à 17. Je me demandais quel genre de performance Jared Goff allait offrir, puisqu'avant la rencontre, il avait complété seulement deux passes de toucher. Imagine-toi, sur les terrains adverses, il y a vraiment une grande différence entre ses performances au Ford Field et sur les terrains adverses. Mais il a bien joué. Il y avait Zach Wilson qui effectue un retour au jeu. Il a gagné 317 verges, deux passes de toucher, une interception pour le carrière de deuxième année. Mais toutefois, plusieurs de ses passes étaient très mauvaises. Il a réussi à compléter de longs jeux. On va lui donner crédit pour ça. Ça fait en sorte, Marc-André, que les Lions ont une fiche de 7 victoires et 7 défaites et sont dans le siège du conducteur afin de participer aux éliminatoires.
Je vois que tu as un beau polo Lyon bleu également là, en ce moment. J'imagine que tu es dans le bandwagon des Lions
non,
en ce moment.
Non, tu viens non, d'entrer. Il n'y a pas de logo des Lions, il y a un logo RDS ici là, sur la manche.
Okay,
un polo RDS.
Bon.
Je ne vais pas m'associer aux Lions comme ça. Là.
Écoute, c'était un affrontement. J'ai trouvé que c'était un affrontement. Ben, c'était vraiment un affrontement important pour les deux équipes. J'ai trouvé que les Lions, tu parlais de Jared Goff, il n'a pas connu un grand match. C'était peut-être à prévoir avec l'excellente défense des Jets, mais je trouve qu'il en a fait assez pour gagner. Et bon, le long touché à la fin, c'est un broken play. Là. C'est un jeu improvisé, un jeu brisé. Le long touché de Wright, je pense. Oui. Mais je pense que les Lions... Ouais, les Lions vraiment, écoute, ils m'impressionnent. On arrive, on marque les points.
Hein?
1 et 6 sur le terrain adverse?
Non, ils avaient commencé la saison avec une fiche d'une victoire et 6 défaites.
Okay,
là, ils sont 7 et 7, ouais.
Puis c'est un environnement quand même hostile. Il faisait froid. Jared Goff, tu sais, c'est un joueur qui a joué dans des dômes, qui a joué à Los Angeles beaucoup dans les. Puis j'ai trouvé qu'ils s'en sont bien tirés d'affaire. Et écoute, de l'autre côté du ballon, Zach Wilson, ça n'a pas été si pire que ça non plus, j'ai trouvé du côté de Zach Wilson. Mais je pense encore que Mike White est un meilleur cadre. Mais pour revenir au Lyon, j'aimerais ça qu'ils fassent les séries. J'aimerais ça qu'ils fassent les éliminatoires, les Lyons, Didier.
Ouais, non,
Depuis, je pense
écoute,
qu'ils
Georges,
ont.
je suis d'accord avec toi. J'aimerais ça. J'avais hâte de voir ce match-up. J'aimerais voir les Jets ainsi que les Lions participer aux éliminatoires. On va voir si les Jets vont être en mesure de se qualifier. Mais Détroit semble être en position. Comme je le disais, ils sont dans le siège du conducteur. Si les éliminatoires commençaient aujourd'hui, ils y participeraient. Il me semble, j'allais jeter un coup d'œil pour ne pas dire une
Mais
faussée. Mais
la
vas-y,
ligne à
oui.
l'attaque des Lions est vraiment excellente
C'est une
et
des
c'est
meilleures de la
ça
ligue, oui.
part et oh absolument et ça part vraiment de là. On voit c'est fou à quel point une ligne à l'attaque peut tout changer. Je veux dire, la ligne à l'attaque donne plus de temps aux carrières. Jared Goff a vraiment l'air d'un corps compétent. On a un bon groupe de receveurs qui ont du temps pour se découvrir, pour se démarquer et on voit le résultat, hein. Ça prend pas grand-chose et ils ont des bons jeunes joueurs également, les Lions. On parle à Amon-Ra St. Brown qui a bien fait. Je veux dire, je m'attendais à rien du côté des receveurs des Lions en raison, bon, Sauce Gardner. On a vraiment une excellente défense du côté des Jets, mais vraiment, les Lions, on a joué un fort match. On en a fait juste. C'est un bon. Tu sais, en termes sportifs, on a le terme là, un road game. Là, on a joué un bon match sur la route du côté des Lions. On en a fait juste assez pour l'emporter. Puis écoute, si on trouve la façon de remporter ce genre de match-là, ben c'est de bon augure. Peut-être, tu sais, je ne sais pas s'ils vont faire les éliminatoires, ils sont en position. Mais pour la suite des choses également, c'est une victoire que l'équipe qu'on peut bâtir pour l'avenir, pour les prochaines saisons aussi, ce genre de victoire-là, durement
Ah,
acquis,
définitivement.
durement acquis sur la route du côté des Lions.
Oui, écoute, je regarde le classement des trois affiches de 7 victoires et 7 défaites. Toutefois, si les éliminatoires commençaient aujourd'hui, ils n'y participeraient pas, mais ils sont dans la course, ils sont au plus fort de la course. Ils ne sont pas dans le siège du conducteur, mais ils ont un dossier de 7 et 7. Les Seahawks ont également un dossier de 7 et 7. Washington, présentement, détient la dernière position du côté de la Nationale qui donne accès aux éliminatoires avec une fiche de 7-6-1. Et bien sûr, il y a les Giants qui les devancent avec un dossier de 8-5-1. Alors, c'est pas encore mission accomplie pour Détroit. Mais quand même, on est en belle position, là, peut-être, pour participer aux éliminatoires. On va y aller rapidement avec les deux autres rencontres qui nous restent. Les Bills, ça se passait samedi soir. Ils ont gagné 32 à 29 contre les Dolphins de Miami. Dis-moi, qu'est-ce qui a retenu ton attention lors de ce match-là? On s'attendait à de la neige, à du temps froid. Finalement, il ne faisait pas si froid que ça. Il a neigé. On était rendu au quatrième quart. Les Dolphins ont tout de même bien tiré leur épingle du jeu. On se disait, ils vont être congelés à Buffalo. Mais non, ça a quand même été de bonnes performances. Ils ont perdu par seulement 3 points.
J'étais un peu déçu d'ailleurs, je m'attendais moi aussi à un blizzard, puis écoute, j'étais un peu déçu. Je voulais avoir quelque chose de féerique, là. C'est le temps des fêtes.
Ouais,
J'aurais voulu avoir
c'est
vraiment,
ça. Puis
vraiment
même
ce qu'il y avait.
lundi soir à Green Bay, il était supposé avoir de la neige et tout. Finalement, il n'y a rien eu de ça.
Puis la neige est arrivée, c'était quoi? C'était 29-29, il restait 6-7 minutes
Ouais.
au match. J'étais comme bon. Comme pour la fin de match, on aurait aimé ça avoir un terrain blanc. C'est le fun des matchs. Tu sais, ma mère a toujours dit, les matchs dans la pluie au football, les matchs dans la neige, c'est toujours, tu sais, je veux dire, on a des ballons échappés, c'est toujours plus divertissant, c'est toujours plus spectaculaire.
Ouais.
Bref, j'ai
Ben,
vraiment été déçu.
les matchs dans la pluie, c'est plus qu'est-ce que c'était. Souviens-toi, avant, il y avait plusieurs terrains en gazon naturel. Maintenant, il y a des surfaces artificielles à peu près partout, mis à part des places comme à Green Bay. Mais dans le temps, lorsqu'il pleuvait, les joueurs se relevaient, ils étaient couverts de boue, tout ça. Donc, c'était mieux là, au niveau là, visuel. Là, ça avait l'air du vrai football, là, si on peut dire. Alors maintenant, il n'y a plus ça avec les surfaces synthétiques, là.
Puis on a toujours l'image de Leon Lett là, qui kick le ballon dans la neige. Puis on a toujours les mêmes images d'un match dans la neige. Mais oui, pour revenir au match, je trouve que la défense des Bills est inquiétante, moi, Didier, un petit peu. Je me
Miami a une bonne
demandais.
attaque quand même.
Oui, absolument, mais on a vraiment exploité le jeu au sol du côté des Dolphins. C'est ça que j'ai vraiment trouvé ça surprenant ou intéressant. Raheem Mostert a connu un excellent match et je trouve. Tu sais, les gens pensent que les Bills, c'est une équipe qui s'en va directement. Tu sais, ont des bonnes chances de participer au Super Bowl dans l'association américaine. Mais la première chose qui m'est venue en tête quand j'ai vu la performance des Bills en fin de semaine, c'était je suis pas convaincu qu'ils vont battre les Chiefs encore une fois cette année, tu sais, avec une défense.
Ils ont battu plus tôt cette saison.
Ouais. Mais tu sais, quand on parle saison régulière versus éliminatoire, c'est deux choses. Mais avec la performance de la défense, je me questionne sur, tu sais, si Tua Tagovailoa ou l'attaque des Dolphins a pu malmener quand même, a pu connaître du succès au sol, imagine ce que Patrick Mahomes va faire en éliminatoire. C'était vraiment ça qui m'est sorti. Je le souhaite aux Bills. J'ai des fans des Bills. Mes amis sont des fans des Bills dans mon entourage. Mais je pense que, écoute, je sais pas, on la trouvait tellement bonne. Oui, OK, Tre'Davious White est revenu au jeu. Ça va améliorer la défense par la passe. Mais j'ai trouvé qu'on avait un bon plan de match du côté des Dolphins. Tyreek Hill, on a quand même... Tu sais, Tyreek Hill n'a pas connu un grand match, à part quelques soubresauts. Oui, vas-y.
Oui. Non, j'allais dire, tu sais, tu parlais, bon, de la défense des Bills qui a accordé beaucoup de verges au sol. Mais je ne sais pas si on a surpris également Buffalo avec notre plan de match, parce que lors des dernières semaines, justement, les Dolphins n'avaient pas couru avec le ballon comme ils auraient dû le faire. Alors, j'ai l'impression peut-être que ça a surpris les Bills de Buffalo. Mais écoute, Marc-André, je veux qu'on y aille rapidement. Il nous reste un match parce qu'on doit parler, bon, des Alouettes et de Fantasy Football. Les Giants qui ont gagné 20-12 contre les Commanders de Washington. Le match avait lieu à Washington. Alors, les Giants, eux, ils sont en très bonne position pour participer aux éliminatoires, comme je le disais tout à l'heure, des Lions, mais je vais être trompé. Ce sont les Giants qui semblent être en voie de participer au match d'après-saison, eux qui ne comptent qu'une participation lors des 10 dernières années en match éliminatoire. Ce qui a retenu l'attention, bon, c'est l'obstruction qui a été commise dans la zone début par un demi-défensif des Giants. Les gens disent que ça a coûté le match, mais réellement, qu'est-ce qui a coûté le match aux Commanders? Ce sont les deux revirements. Ils ont été victimes de deux revirements. Les Giants ont été victimes d'aucun revirement. Et un de ces revirements-là, ben, ça a été un échappé provoqué par Kayvon Thibodeau, qui l'a lui-même récupéré et ramené dans la zone des buts. Alors oui, l'arbitrage a vraiment été très mauvais cette semaine, comme tu le disais au début de l'épisode du podcast. Puis bon, oui, il aurait dû avoir une pénalité, mais c'est pas ça qui a coûté le match. Ce sont vraiment les revirements, selon moi.
Écoute, je sais pas si tu as entendu Terry McLaurin après le match. Il a écopé d'une punition aussi. Il était comme aligné. En fait, les Commanders ont fait un toucher qui aurait pu, avec la transformation, créer l'égalité en fin de match. Mais on a donné une pénalité à Terry McLaurin pour avoir été mal aligné, disons, sur la ligne d'engagement. Puis après le match, Terry McLaurin a dit qu'il avait demandé à l'officiel. Il s'est même retourné vers l'officiel sur les lignes de côté pour dire « Est-ce que je suis correct? » Puis l'officiel lui a se replacer où ce qu'il était. Puis il s'est même retourné une deuxième fois pour dire « Est-ce que je suis correct? » Puis il a dit oui. Puis on lui a donné quand même une punition. Je veux dire, ça a changé complètement l'allure du match là, sans cette punition-là, cette pénalité-là. Les Commanders, le toucher de Brian Robinson au sol est bon. On a une tentative pour créer l'égalité ensuite de deux points. Donc, oui, écoute, c'est plein de... ça m'a fasciné quand j'ai vu ça. À la limite, je ne peux pas croire que l'officiel n'ait pas été voir les autres en disant « Écoute, c'est moi qui ai dit qu'il était correct. On peut-tu pas y donner? »
Oui, Mais là, on va voir si Washington détient la dernière position qui donne accès aux éliminatoires. Du côté de la Nationale. Alors, on va voir s'ils seront en mesure, les Commanders, de se remettre de cette défaite. On va voir également si Benjamin Saint-Just pourra effectuer un retour au jeu cette semaine. Son nom a été rayé de la formation tout juste avant le match en raison d'une blessure à une cheville qui lui a fait rater maintenant les trois derniers matchs de Washington. Mais écoute, le moment est venu de révéler nos réactions excessives. Est-ce que tu en as une pour nous, finalement, Marc-André?
Moi, j'en ai une. Commence et je vais lancer la POC après.
Écoute, on va y aller rapidement parce que, comme je le dis, on est déjà rendu à environ la 36e minute de notre enregistrement. Mais je crois qu'on assiste à la dernière saison de Bill Belichick en tant qu'entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Avant le début de la saison, durant la saison morte dernière, le propriétaire des Patriots, Robert Kraft, il avait dit qu'il ne comprenait pas les insuccès au cours des dernières années de son équipe. Parce que là, ça fait longtemps là, que les Patriots n'ont pas gagné un match éliminatoire et Kraft n'avait pas caché qu'il était impatient face à ça. Alors moi, j'avais pris note de ça. Je me disais, mon Dieu, ça semble être un message envers Bill Belichick. Là, Robert Kraft, il peut pas être content de la façon dont les Patriots ont perdu à Las Vegas. Alors, si on ne participe pas encore aux éliminatoires, est-ce que Belichick va être de retour à la barre de l'équipe? Parce que c'est lui là, qui a décidé de faire de Matt Patricia son sélectionneur de jeu en attaque. Puis clairement, là, ça, c'est une erreur. La farce a assez duré. Là. Okay, Matt Patricia est un ancien coordinateur en défense. Là, il sélectionne les jeux du côté de l'attaque. Ça ne marche pas. Mac Jones a vraiment régressé cette année. Pourtant, lorsque Josh McDaniels était là l'année dernière en tant que recrue, Mac Jones semblait être un carrière prometteur. L'attaque ne fonctionne pas du tout. Et tout ça, ben, ça relève de Bill Belichick. Comme les bourdes des joueurs, ça ne peut pas arriver. Il faut pointer directement du doigt l'entraîneur-chef pour la fin de la rencontre contre les Raiders, même si c'est les joueurs qui ont pris la décision d'y aller de latéral. Alors, c'est ma réaction excessive. 2022 est la dernière saison de Bill Belichick à la barre des Patriots.
Écoute, moi, je vais y aller. On en a parlé tout à l'heure, mais honnêtement, je pense que c'est encore excessif de dire que les Jaguars ont terminé au premier rang de l'association américaine. Du sud de l'américaine. Donc, je pense que les Jaguars ont le momentum, ont le vent dans les voiles en ce moment. Écoute, j'aime cette équipe-là. Je ne pensais jamais dire ça dans ma vie. J'aime comment on a retrouvé notre confiance, notre swag. On joue avec intensité également. Doug Peterson fait de l'excellent travail. Donc, je pense que les Jaguars sont en ascension, les Titans. Et écoute, la division est quand même assez facile. Les Colts sont éliminés, les Texans, on n'en parle même pas. Mais les Jaguars de Jacksonville vont remporter le titre dans le sud de l'Américaine et vont participer aux éliminatoires pour la première fois depuis Blake Bortles était le carrière.
Oui, c'est 2017 en compagnie de Jasmine Leroux quand on faisait le NFL Red Zone dimanche. On a regardé, il me semble que c'est 2017. Lorsqu'ils étaient à une victoire d'une participation au Super Bowl. Oui, exact. Ben oui, Jalen Ramsey était là, tout ça, Leonard Fournette. Du côté de l'attaque. Donc, on avait un bon noyau de jeunes joueurs. On se disait, les Jaguars vont être à surveiller lors des prochaines années. Puis, je pense que la saison suivante, on a gagné juste 5 matchs du côté de
Blake
Jacksonville.
Blake Bortles, Justin Blackmon.
Oui, non, Blackmon n'était plus là. Il était déjà...
OK.
Il avait déjà ses problèmes. Oui. Il était déjà plus dans la NFL. Ben, écoute, avant de parler fantasy football, on va parler brièvement des Alouettes de Montréal. Là, parce que, bon, encore une fois, une autre saison morte remplie. De ces années, on peut dire, premièrement, les Alouettes ont nommé Jason Mass à titre d'entraîneur-chef. C'est pas vraiment une surprise parce que dès que Kerry Jones avait été congédié au mois de juillet dernier, ben, on anticipait que Danny Machocha allait embaucher son ancien carrière avec Edmonton à l'époque. Mass était carrière réserviste derrière Ricky Ray et donc une très bonne relation. Jason Mass a été entraîneur-chef d'Edmonton. L'année dernière, il était coordinateur à l'attaque des Riders. Pourquoi ça n'a pas bien été? Il a été congédié à la fin de la saison, mais il fait partie de l'arbre de Mark Trestman, puisqu'il a appris sous Scott Milanovic, il a appris de Marcus Brady. Donc, il a quand même un bon background. La question de savoir, est-ce qu'il va pouvoir s'entendre avec les adjoints qui sont déjà là? Parce que avant même de commencer la recherche d'un nouvel entraîneur-chef, Danny Machocha avait dit que tous les adjoints allaient être de retour, mais là, André Bauduc s'en va avec les Rough Riders de la Saskatchewan. Lui qui avait été interviewé par Machocha pour le poste d'entraîneur. Bref, ça a été un processus d'embauche qui était... l'idée était pipée, là, comme on dit. L'emploi était celui de Jason Mass. Toi, qui es un partisan des Alouettes, pour les gens qui ne le savent pas, tu assistes régulièrement aux rencontres durant la saison. Ça a été quoi, là, ta réaction? Entends, là, je parle aux fans de football qui est en toi, le partisan des Alouettes qui était en toi. Ça a été quoi ta réaction lorsque tu as appris que c'était Jason Mass, le nouvel entraîneur-chef?
J'abonde un peu dans le même sens que toi. Je trouve que le jeu était fait d'avance. Je veux dire, ça a été le seul candidat qu'on a interviewé qui venait de l'externe, puis c'est lui qu'on a embauché. Je pense, par contre, pour la situation sur le terrain, Jason Mass est quand même... Je pense qu'il y a un lien aussi avec Trevor Harris. Hein. Il l'a connu, je pense, à Edmonton, entre autres.
À Toronto, au début de sa carrière, oui.
À Toronto, excuse-moi. Puis
la carrière de Harris, oui.
Je pense qu'au moins, on essaie de trouver une continuité ou on essaie d'avoir des familiarités entre les joueurs et les entraîneurs. Ça, pour moi, c'est une bonne chose. Est-ce que Jason Mass, pour moi, mais je sais pas qui, en fait, commenter l'embauche, je sais pas qui aurait fait un meilleur travail. Personnellement, je pense pas qu'Anthony Carvalho est un entraîneur-chef dans la Ligue canadienne. Je suis pas convaincu qu'André Bolduc l'est non plus. Donc, Ça prend quelqu'un avec l'expérience. Jason Mast a l'expérience d'entraîneur-chef. C'est sûr qu'il y a un lien de confiance. Il y a un lien aussi avec Danny Maciocia. Mais je pense que, je veux dire, je laisse la chance au coureur dans le cas de Jason Mast. Ça a été ça vraiment mon analyse de la situation.
Non, moi aussi, je laisse la chance au coureur. La seule chose, c'est le processus. C'est comme tu l'as dit, seulement un candidat à l'externe. C'est pourquoi on n'a pas appelé les Bombers pour voir si on ne pouvait pas parler à Bob Pierce, un coordinateur à l'attaque, pour voir s'il avait de l'intérêt. C'est juste ça que j'aurais aimé voir. Mais écoute, peut-être que ça va être la bonne décision. Hein. Lorsque Danny Maciocia a congédié Kerry Jones, il y a plusieurs gens qui n'étaient pas certains que c'était une bonne décision. Finalement, les Alouettes n'étaient plus qu'à une victoire d'une participation à la Coupe Grey. Alors, il faut donner une chance aux coureurs. Ou je ne vais pas donner de chance, par contre. C'est aux propriétaires des Alouettes, les propriétaires fantômes des Alouettes, les propriétaires invisibles qu'on ne voit jamais, qui veulent rester dans l'ombre. Puis là, ça fait en sorte que Mario Cecchini ne sera pas de retour. Ils ont choisi de ne pas renouveler le contrat de l'ancien président des Alouettes. Il n'y a rien qui a été annoncé officiellement, mais moi, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qui a été rapporté également par Herb Zukowski de Gazette. Il y avait également à la radio Mario Langlois qui en avait parlé lors des derniers jours. Alors, Mario Cecchini ne sera pas de retour. Ça, c'est déplorable sur plusieurs facettes. Encore une fois, en tant que partisan des Alouettes, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que Cecchini a fait du bon travail. Oui, les assistances étaient en hausse lors de la dernière saison, comparativement aux années précédentes, mais au niveau des commandites, il me semble que les Alouettes, avant son arrivée, n'avaient que 800 000 $ en commandite. Ça a augmenté à 2 millions de $ là. Je ne me souviens pas exactement des chiffres, mais il y avait une belle augmentation. Là, c'est tout ça pour rien. Là, les Alouettes n'ont plus de président, ils n'ont plus de gouverneur. C'est une situation qui est tellement bizarre. Pourtant, durant la saison, on nous avait dit que Gary Stern n'était plus là, que Mario Cecchini allait devenir le gouverneur des Alouettes. Là, quoi, 4 mois plus tard, il ne sera pas de retour pour la saison 2023. Alors, encore une fois, en tant que partisan des Alouettes, le partisan que tu es, qu'est-ce que tu penses de tout ça à ce point de vue-là du côté de l'organisation montréalaise?
Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 $ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
Propulsé par énergie.
Je pense encore que, tu sais, on dit, on entend souvent que les Alouettes, c'est l'organisation est broche à foin, mais je trouve tellement qu'on dirait qu'on fait exprès pour préserver cette image-là dans la communauté. Tu l'as dit toi-même, Cecchini, je trouve qu'il a fait des bonnes choses avec les Alouettes. Tu sais, c'est comme tout lui qui est derrière le rebrand aussi beaucoup des Alouettes. Je veux dire, on a vu une augmentation des assistances. Fait que ça me dit qu'il y a sûrement quelque chose à l'interne qu'on ne sait pas, qui s'est passé. Ou, je veux dire, je trouve vraiment qu'on cherche de la continuité depuis, tu en parles tellement souvent, Didier, depuis tellement d'années qu'on cherche de la constance, de la continuité, avoir des propriétaires ou d'avoir une équipe qui a vraiment, qu'on voit, que la stabilité, c'est le mot que je cherchais, la stabilité aussi au sein de l'organisation. Puis de voir ça, moi, mes yeux de partisan, ça me tient. Je veux dire, je me mets comme partisan qui a des billets de saison. Là, je me dis, bon, encore, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, ça me refroidit à l'idée de renouveler mes abonnements de saison. Je trouve tellement que l'organisation... Est-ce que l'organisation nous cache des choses aussi? Tu sais, je veux dire, il y a cette question-là aussi. Donc, en tant que partisan, je trouve que c'est vraiment pas une bonne chose. C'est vraiment une chose qui... Je veux dire, je suis un peu bafouillé aussi. Je sais pas ce qui se passe. Puis en fait, la direction que prend l'équipe, souvent, c'est ça qu'on veut savoir aussi comme partisan. Où est-ce qu'on s'en va? On dirait qu'on fait un pas en avant, puis pour faire deux, même trois pas en arrière. Je veux dire,
ça va toujours être
c'est
ça,
où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va?
Ben, ça va toujours être comme ça tant aussi longtemps que les Alouettes vont pas appartenir à des propriétaires locaux. Puis je dis pas ça parce qu'on est au Québec, ça prend des propriétaires québécois. Non. OK, tu regardes à travers la Ligue canadienne, toutes les équipes, mis à part les Alouettes, appartiennent soit à la communauté ou à des propriétaires locaux. C'est comme ça. La Ligue canadienne, là, c'est pas la NFL, c'est pas une grosse ligue. C'est ça que ça prend. Ça prend des investisseurs locaux qui vont être prêts peut-être à perdre de l'argent pendant quelques années, qui vont être prêts à dépenser de l'argent pour construire un site d'entraînement pour cette équipe-là, pour améliorer les installations, les bureaux dans lesquels les gens d'organisation travaillent. Tant qu'on n'a pas des gens locaux, ça ne va pas se faire. Puis là, la succession à Spiegel, qui avait acheté l'équipe en compagnie de Stern, eux, ils veulent juste faire un coup d'argent, éventuellement vendre l'équipe et essayer de faire un profit avec tout ça. Donc, ils ne sont pas là pour le long terme, là. Okay? Même le commissaire Randy Ambrosi, qui ne dit jamais rien, m'a indiqué ça lorsque j'avais questionné à Regina lors de la semaine de la Coupe Grey. Il y a d'autres gens qui m'ont confirmé ça, des gens de la Ligue canadienne. Ces propriétaires-là ne sont pas là pour le long terme. Donc, potentiellement, ils peuvent tout bousiller, les efforts qui ont été faits depuis la saison 2019, oui, avant la pandémie. Bref, tu sais, c'est ça, les Alouettes. À chaque saison morte, on ne peut pas juste se concentrer sur l'aspect football. Danny Machocha et Mario Cicchini ont travaillé fort depuis qu'ils ont été nommés en tant que président et DG de l'équipe montréalaise. Là, c'est comme si on est en train de tout défaire ça encore une fois. Ça ne doit pas être une situation facile. Bref, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Les Alouettes, bon, qui vont rencontrer les médias aujourd'hui, étaient supposés présenter Jason Mast. Mais là, il y a le congédiement de Mario Cicchini dans tout ça. Bref, c'est encore une fois tout croche. Mais tout ça, ça part de Randy Ambrosi. C'est pas la faute des gens au sein d'organisation. Ça part de Randy Ambrosi qui a complètement bousillé la vente, le dossier de la vente des Alouettes. On s'en souviendra en 2019. C'est lui qui a choisi Gary Stern et Spiegel comme propriétaire. Je sais que Spiegel est décédé. Peut-être les choses seraient différentes. Mais pourquoi il n'a pas favorisé des investisseurs locaux? C'est vendre ça à des gens du sud de l'Ontario.
Parce qu'il y en avait. Écoute,
qui ne comprennent pas le marché ici à Montréal. Ouais, vas-y.
Parce qu'il y en avait, tu sais, c'était à se demander s'il y avait je sais pas, c'était quoi les paramètres de la vente, là, mais tu sais, il y avait le consortium, je pense, avec Éric Lapointe, là. Je veux dire, tu sais, il y en avait quand même
on est en train de se rallier un peu. Ouais, mais ça, c'est l'autre affaire. On ne fait jamais preuve de transparence du côté de la Ligue. On ne sait jamais vraiment qu'est-ce qui se passe. On entend des rumeurs ici et là. Il faut fouiller, il faut essayer de trouver des réponses. Même lorsqu'on a congédié Kavis Reed, moi j'avais entendu dire que c'était au niveau du plafond salarial, qu'il n'avait pas respecté les règles et tout, il avait tenté de contourner le plafond salarial. Mais la Ligue n'a jamais émis un communiqué pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. On ne donne jamais d'explication, on n'en fait jamais preuve de transparence. Ambrosi, il va tout le temps de plusieurs paroles qui veulent absolument rien dire. Il parle beaucoup pour dire rien. C'est lui qui a bousillé la vente des Alouettes, puis il n'est pas tenu responsable de ça. C'est lui également qui a fait en sorte qu'il n'y a pas eu de saison en 2020. Lui et les gouverneurs, il ne faut pas oublier les gouverneurs, parce qu'il y a plusieurs gouverneurs, propriétaires des autres équipes, qui ne tenaient pas plus que ça d'avoir une saison en 2020. Donc, c'est ça. On a encore pris avec une situation aberrante du côté de l'organisation montréalaise. Puis moi, c'est sûr que ça me frustre, parce que je suis affecté depuis des années à la couverture des Alouettes. Je viens de Montréal, je joue mon football ici. J'ai vu l'impact que l'arrivée des Alouettes a eu au sein du football dans toute la province, avec l'arrivée en 1996, le développement également du programme du Rouge et Or. Tu sais, autrefois, là, le football n'était pas développé comme il l'est aujourd'hui. Okay, au Québec, la raison de la popularité du football amateur au Québec, c'est en raison du retour des Alouettes en 1996. Et également le fait que le programme du Rouge et Or a connu du succès très rapidement. Puis, en tout cas, tu sais, de voir les Alouettes peut-être un jour disparaître, moi, ça ferait mal à bien des gens. Et je ne veux pas m'aventurer trop loin, mais en tout cas, regarde, je vais essayer d'aller.
Qui penses-tu qui va prendre le relais comme président? Qui sont les candidats?
Aucune idée. J'en ai aucune idée.
On va avoir les mêmes noms qui vont sortir. Probablement, même notre collègue Pierre Vercheval risque d'être dans les rumeurs comme toujours.
Pierre n'est pas intéressé à ça. Pierre
ouais, non, je sais bien, mais c'est toujours ça.
Certainement pas avec la situation actuelle. Non, je sais, mais Pierre n'est pas intéressé à ça non plus. Mathieu Brou non plus, puis j'y comprends. Non, j'en ai aucune idée. On ne sait pas, c'est ça l'affaire. On n'a aucune piste. Parce qu'on n'a jamais même vu les propriétaires. Physiquement, on ne les a jamais vus. On ne sait même pas de quoi ils ont l'air. C'est des propriétaires fantômes. On sait qu'ils sont les propriétaires de toutes les équipes dans la Ligue. On peut mettre un visage sur eux. À Montréal, les partisans des Alouettes peuvent même pas mettre un visage sur le groupe de propriétaires. Ça ne peut pas être ça.
Si on revient à Mario Cecchini, je trouve tellement aussi, tu parlais de transparence, c'est un bon point. Je veux dire, je trouve qu'on faisait aussi un
Mario
pas
était
en
très
avant.
transparent.
Exactement, il était actif
Oui.
sur les réseaux sociaux, il était disponible. Oui, c'est ça, on a fait un pas en avant à ce niveau-là. Puis encore là, on risque de faire deux pas en arrière, malheureusement.
En ce moment, malheureux. Bon, écoute, on va quitter sur une meilleure note en parlant de fantasy football. Écoute, on va y aller rapidement parce que là, on a parlé très longtemps des Alouettes. Alors, écoute, allons-y rondement, en commençant par les joueurs que tu suggères, là, bien sûr, d'aller chercher au niveau du waiver wire. C'est la deuxième semaine des éliminatoires, puis encore des joueurs qui sont disponibles, qui pourraient avoir un impact et permettre aux gens de participer à la finale de leur ligue.
C'est quoi la routine le matin, Didier? C'est de me lever, prendre un bon café, aller faire mon petit pipi, puis de regarder qui joue contre les Vikings cette semaine. Donc, pour vous, j'ai le corps arrière Daniel Jones qui affronte Daniel Jones disponible dans au moins la moitié des ligues fantasy. Et en l'absence d'un corps comme Jalen Hurts, ça peut devenir intéressant pour ceux qui, comme moi, je vis les mêmes choses que vous, ont perdu Jalen Hurts pour la prochaine semaine, puis qui pensent que son match de demi-finale va être vraiment difficile. Oui, Daniel Jones, bon, la défense des Vikings accorde en moyenne 21,3 points fantasy au corps arrière adverse cette saison. Ça, c'est le quatrième plus haut total dans la NFL. Et je veux vous mettre en lumière que le fait que Daniel Jones a vraiment rendu de fiers services à ses propriétaires fantasy cette saison, il a une moyenne de 17 points par match. Il est le corps arrière numéro 14 pour des points par match dans la NFL en ce moment. Et dans quatre de ses six derniers matchs, il a obtenu au moins plus de 10 points, de 7 points fantasy. Il a seulement un match cette année de moins de 10 points. Donc, Daniel Jones, pour vous, est une excellente solution à court terme pour remplacer des cartes comme Jalen Hurts qui se sont blessés, qui vont rater des matchs, en fait. Ils vont rater quasiment quoi, 1 à 2 semaines, Jalen Hurts. Pour un corps comme Jalen
Oui.
Hurts, je pense que Daniel Jones est un excellent. Il est en jeu cette semaine, Daniel Jones.
Oui, et puis il y a Gardner Minshew également qui va remplacer Jalen Hurts. On sait que l'attaque des Eagles fonctionne rondement. Maintenant, il y a deux porteurs de ballon que tu crois que ça vaut la peine d'aller chercher. Il peut peut-être même d'insérer au sein de la formation partante cette semaine en demi-finale de Fantasy Football.
C'est pas sexy, mais je pense que Zach Moss est un ajout quand même numéro un. C'est l'ajout numéro un fantasy cette semaine à la position de porteur de ballon en raison de la blessure de Jonathan Taylor. En l'absence de Taylor, lors du dernier match, Zach Moss a joué 67% des jeux, 24 courses, 81 verges. Il a joué 31 jeux en deuxième demi et en prolongation contre seulement 9 pour Deion Jackson. Est-ce que c'est parce que les Colts tentaient, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que c'est parce que les Colts tentaient de jouer avec une avance vraiment, qu'on a couru vraiment davantage avec Zach Moss? Je ne sais pas, mais c'est risqué quand même, mais ça peut être payant pour vous, Zach Moss, parce qu'un porteur de ballon numéro un au niveau fantasy, c'est payant. Et les Colts affrontent les Chargers cette semaine et la défense des Chargers contre la course est vraiment exécrable. Elle accorde en moyenne 145 verges par la course par match, une moyenne de 5,3 verges par match. Seulement les Giants ont fait pire que les Chargers à ce niveau-là dans la fantasy cette saison. Et ça tombe bien parce que les Colts affrontent les Giants lors de la semaine 17 également. Donc, ça
Ah,
peut
voilà.
être une solution pour 2 semaines pour vous cette semaine.
Bon, les Falcons de ballon, ils aiment courir avec le ballon. Les Falcons, oui, les Falcons d'Atlanta. C'est ça que j'ai dit. Oui, les Falcons d'Atlanta. Le demi à l'attaque, Tyler Allgeier, est une option. Surtout, mon Dieu, Desmond Ridder, on avait hâte. Moi, j'avais hâte de le voir
Aïe,
tenir
aïe,
un
aïe.
départ. Ça a été catastrophique ou presque. Ouais, quoi, moins de 100 verges par la passe. C'est rendu qu'en troisième essai, on courait avec le ballon. Tellement qu'il avait des ennuis. Alors, j'imagine qu'on va encore tenter de courir avec le ballon cette semaine.
Arthur Smith va courir, 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 courir. Ça va profiter à Tyler Allgeier cette semaine. En fait, Tyler Allgeier est en train vraiment de s'établir comme le porteur numéro un ou le mâle alpha dans le champ arrière des Falcons. À ses 4 derniers matchs, il a obtenu 300 verges en 46 courses. Ça, c'est bon pour une moyenne de 6,5 verges par course. Ça a été vraiment ponctué par une performance incroyable contre les Saints dimanche. 139 verges en 17 courses, un touché, 21 points fantasy. Et tranquillement, pas vite, ben on voit, tu sais, dans 3 de ses 4 derniers matchs, Allgeier, il a obtenu plus d'opportunités que Cordarrelle Patterson. Ça, c'est intéressant. L'affrontement, par contre, est difficile dimanche contre les Ravens, qui sont excellents contre la course, mais on pensait que les Saints allaient être excellents contre le jeu au sol des Falcons. Ça n'a pas été le cas. Et lors de la semaine 17, quand même, Alger affronte les Cardinals de l'Arizona, qui ça est vraiment un affrontement beaucoup plus alléchant. On parle peut-être en fantasy de potentiel league winner lors de votre semaine de championnat. Tyler Alger est un nom à retenir.
Oui, un receveur du côté des Seahawks de Seattle qui devra obtenir plus d'opportunités à la suite de la blessure qui a mis fin à la saison au receveur Tyler Lockett.
Je parle ici pour des ligues de 14-16 équipes. Marquise Goodwin va vraiment être le receveur numéro 2 ou s'implante comme receveur numéro 2 dans l'attaque des Seahawks en raison de la blessure à Tyler Lockett qui s'est fracturé un doigt. Il est déjà impliqué, Marquise Goodwin, comme receveur numéro 3 de l'équipe. Il a joué 38 des 64 jeux offensifs de l'équipe la semaine dernière. Et on sait que Tyler Lockett était ciblé en moyenne 7 fois par match par Geno Smith, Didier. Donc, si je ne m'attends pas à ce que Marquise Goodwin prenne la charge de travail de Tyler Lockett, mais à 5, 6 cibles, on va le regarder, Marquise Goodwin. C'est ça que mon point que je veux apporter. Et juste peut-être une petite parenthèse, lorsque DK Metcalf a manqué la majorité d'un match lors de la semaine numéro 7, mais Marcus Goodwin a inscrit 2 touchés. Et cette semaine, donc, je veux dire, il y aura des opportunités pour lui dans l'attaque des Seahawks, Marcus Goodwin. Et cette semaine, les Seahawks affrontent les Chiefs. Et selon moi, les Seahawks vont tirer de l'arrière, vont passer avec le ballon. Et la défense des Chiefs, elle est permissive. Elle a accordé le 4e plus haut total de points accordé aux demi-insérés adverses cette saison. Donc ça, c'est intéressant. Donc pour moi, vraiment, Marquise Goodwin, c'est un affrontement favorable. On parle ici de receveur 3 de flex dans le cas de Marquise Goodwin.
Mais brièvement, est-ce que tu as un ailier rapproché que tu suggères d'aller chercher au niveau du waiver wire?
Je pense qu'il faut parler de Juwan Johnson qui a inscrit 7 touchés en 7 matchs depuis la semaine numéro 7. Les 7 sont frimés. Didier, écoute, j'ai une stat pour toi. Seulement A.J. Brown compte plus de touchés sur réception que lui chez les receveurs slash ailier rapproché dans la NFL depuis la semaine numéro 7. C'est assez incroyable,
ah, ouais.
Ça. Ouais. Il est hautement efficace en plus, Juwan Johnson. Il a inscrit ses 7 touchés sur 21 réceptions. Est-ce que je pense qu'on court après des touchés ici? Je ne sais pas. Alors, c'est vrai, jamais une bonne chose de courir après les touchés au niveau fantasy, mais il a tenu au moins 40 verges.
Ouais, c'est tout ou rien.
Exact. Il a tenu au moins 40 verges dans 4 de ses 5 derniers matchs. Il a été ciblé 6 fois lors du dernier match par Andy Dalton. C'est un sommet chez les Saints, ça c'est intéressant. Puis je pense que Juwan Johnson peut s'établir comme un... Oui, la semaine contre les Browns, ça ne sera pas facile lors de la semaine numéro 16 contre les Browns. Les Browns sont excellents contre les ailiers rapprochés adverses. Mais s'il devient une cible de choix d'Andy Dalton dans la zone payante, je pense qu'on peut avoir un potentiel. Je pense qu'on peut aller chercher des points avec Juwan Johnson. Et c'est drôle parce que les autres receveurs, Chris Olave connaît des ratés ou est moins efficace ou est moins ciblé dernièrement. Puis ça pourrait peut-être se traduire par une augmentation du volume de Juwan Johnson. J'ai bien hâte de voir ça en fin de semaine.
Alors, quels sont les autres joueurs qui retiennent ton attention, là, qui sont peut-être plus des long shots, si tu me permets l'expression, mais ça vaut la peine peut-être d'aller les chercher?
Je regardais mon fil de joueur autonome à la position de carrière pour remplacer Jalen Hurts, comme je vous le disais tout à l'heure. Puis, je regardais les noms, puis je me suis dit, je pense que Gardner Minshew est quand même meilleur que la plupart des corps qui sont sur votre fil de joueur autonome. Je pense que Gardner Minshew, c'est un corps compétent dans la NFL. Et l'an dernier, il a obtenu un départ en l'absence de Jalen Hurts. Il a obtenu 242 verges, 2 passes de toucher et une cote d'efficacité de 133. Les Eagles demeurent une équipe explosive à l'attaque, que ce soit Jalen Hurts, que ce soit Gardner Minshew, ils ont des armes. On parle de Miles Sanders, on parle de Devante Smith, on parle d'un potentiel retour de Dallas Goedert, on parle de A.J. Brown. Donc, je pense qu'il y a pire que Gardner Minshew sur votre fil de joueur autonome. Bien désespéré, je pense que c'est un nom que vous pouvez aller chercher et vous pouvez insérer dans votre formation cette semaine. Je vais vous parler du porteur de ballon, Royce Freeman des Texans. Il a obtenu 11 courses, 51 verges. Il a pris le contrôle du champ arrière des Texans. Oui, c'est le champ arrière des Texans, mais s'il devient un porteur de ballon numéro 1 dans une équipe de la NFL, il devient vraiment utile au niveau fantasy. Si vous êtes vraiment désespéré, il a obtenu 11 occasions la semaine dernière contre Ogunbowale, seulement 8, et Burkett 2. Donc, vraiment, s'il devient le porteur de ballon numéro 1 des Texans, il doit être mentionné dans cette chronique. Je vais vous parler de l'autre porteur de ballon des Colts, Deion Jackson. Également, je vous ai parlé de Zach Moss tout à l'heure, mais je veux juste vous rappeler que lorsque Jonathan Taylor avait manqué lors des semaines, avait manqué à l'appel lors des semaines 5 et 6. C'est Deion Jackson qui avait pris le contrôle du champ arrière des Colts. Et ça se pourrait que ça arrive encore. Hein? Ça se pourrait qu'on s'en remette à le porteur de ballon qui a le meilleur rendement dans ce match-là, le hot end en anglais. Ça se peut que Deion Jackson sorte vraiment une grosse game, un gros match. Donc, je l'ai mis dans ce tableau. Et je vais vous parler du receveur également, Elijah Moore, qui a été ciblé plus de 20% du temps lors des deux derniers matchs. Il est deuxième pour les jeux, les tracés chez les Jets. Et avec le retour potentiel de Mike White, j'aime la perspective de Elijah Moore. Et les Jacksonville et les Jaguars ont accordé le quatrième plus haut total de points aux receveurs adverses cette saison. Donc ça, c'est intéressant. Et je vais vous parler de Chig Okonkwo pour la deuxième semaine consécutive, l'ailier rapproché des Titans. Son rôle continue à augmenter dans l'attaque des Titans du côté d'Okonkwo. Il a joué plus de jeux, il a couru plus de tracés que Austin Hooper la semaine dernière. Ça s'est traduit par 54 verges sur 4 catchs. C'est souvent ce qu'on veut en format PPR, c'est près de 10 points fantasy. C'est souvent ce qu'on recherche à la position de l'ailier rapproché. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, les Titans sont à la recherche vraiment de receveurs de talent à la position de receveur de passe. Et Okonkwo est en train de combler peut-être un vide qu'on a à ce niveau-là. Treylon Burks devrait être en mesure de revenir au jeu cette semaine. Ça pourrait peut-être venir jouer dans les plates-bandes de Okonkwo. Mais néanmoins, ça demeure quand même un ajout. Si vous êtes à la recherche vraiment d'un ailier rapproché, d'un streamer, d'une solution à court terme, Okonkwo peut être une excellente option pour vous.
Ben, Marc-André, voilà, on a fait le tour. Écoute, je te remercie là, de ta présence en longue relève.
À la comme Baker minute, Mayfield.
Non.
Baker Mayfield avec les Rams.
Toi, t'as offert une bonne performance. T'as offert une bonne performance. C'est pas comme Baker
non.
Mayfield. As-tu vu jouer
J'ai
Mayfield
pas...
lundi soir à Green Bay? Je pense pas que tu veux te comparer à lui.
Je suis arrivé, je connaissais pas le livre de jeu. On m'a pas donné de temps de préparation, puis j'ai livré en fin de match. C'était plus...
J'essaie de passer d'un joueur qui a fait une bonne performance en relève, mais pas Baker Mayfield, parce que t'as été beaucoup plus Tesla que Baker Mayfield.
Ah,
écoute, je te remercie. Ouais, je te remercie, puis je remercie les gens qui ont regardé cet épisode du podcast et qui l'ont téléchargé, qui le téléchargent à toutes les semaines. Alors, Marc-André, je vais te souhaiter un joyeux Noël, mais on va avoir l'occasion de se croiser au bureau. De toute façon, mais pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, ben on vous souhaite de joyeuses fêtes. On vous souhaite de passer un joyeux Noël avec parents et amis. On sera de retour mardi prochain afin de parler de la 16e semaine d'activité qui va commencer dès jeudi soir avec le duel entre les Jaguars de Jacksonville et les Jets de New York. Et bien sûr, cette rencontre sera présentée sur les ondes de RDS. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.